all I know. I keep singing them sad, sad songs. Sad songs, all I know. It has a sweet melody tonight.
Let's go. Hell yeah, sur la Web Rock Station, Vinny Times, le Classic Rock Radio, chaque mardi soir, Budge vient, se présente dans l'émission 213 Rock pour raconter une belle histoire. Ce soir, il s'agit d'un grand guitariste américain qui a dû débuter sa carrière à l'aube des années 70, c'est-à-dire 72, 73, quelque chose comme ça, quoi. Bonsoir, Budge.
Bonsoir, Rag, et bonsoir tout le monde.
Ça va, tu vas bien? Ça va?
Ouais, ouais, une bonne semaine qui passe encore. Et toujours sur ce rendez-vous que je ne rate pas.
Ouais, que tu rates pas. Et notamment ce rendez-vous musical, je crois, ton album de la semaine, allez.
Ouais, et ça va t'étonner quelque part, je me suis mis un album de Dream Theater,
oh.
Awake.
Ah ouais, gros disque.
Parce que, tu sais, d'un côté, j'ai toujours eu du mal avec ce groupe, et surtout James Labrie. Bon, Awake reste un bon album. Et qui est de loin, qui est bien loin d'un Images and Words ou encore d'un Falling to Infinity, sans parler de Metropolis. Peut-être qu'un jour, je déverserai tout ce que je pense de ce groupe. Enfin, Dream Theater, c'est aussi un guitariste, John Petrucci, un Shredder hors pair qui n'aurait jamais été le même si notre musicien du soir n'aurait pas laissé tomber la batterie pour aller guitare. Guitare qu'il a appris à bricoler pour fabriquer l'instrument sur mesure. Je veux bien sûr parler d'Eddie Van Halen. Eddie Van Halen naît à Nijmegen, aux Pays-Bas. C'est en 62 que sa famille s'installe en Californie. Ian, son père, est clarinettiste et saxophoniste. Il encouragea ses deux fils, Eddie et Alex, à apprendre la musique. Ils commenceront d'abord le piano avant que chacun ne se spécialise dans un instrument. Alex jouera de la guitare pendant qu'Eddie semble se destiner à la batterie. Quand Eddie était absent, Alex ne se privait pas de jouer de la batterie de son petit frère jusqu'au jour où Eddie le surprend et lui propose d'échanger les postes. Eh oui, Eddie Van Halen a failli être un batteur, tout comme Jeff Hetfield par exemple. Il a aussi ce point en commun avec Glenn Tipton de Judas Priest qui jouait du piano avant la guitare. Avec Alex à la batterie, il forme un premier groupe avec un ami, Mark Stone. À cette période, le groupe n'a pas encore trouvé son nom définitif. Il se nomme The Broken Combs, The Pace Brothers, The Trojan Rubber Company, Genesis et enfin Mammoth. À cette époque, le groupe tournait dans différents événements mineurs, entre représentations dans des mariages et dans des clubs, comme le légendaire Whiskey à Gogo, louant du matériel chez David Lee Roth, qui a lui aussi un groupe, The Red Balls Jets. Le groupe doit payer une taxe de sonorisation qui coûte. Les frères vont donc proposer à Roth de rejoindre le groupe, gagnant en change, puisque plus de taxes à payer, et Eddie pourra se concentrer sur la guitare, puisque c'était lui au chant. Mark Stone quitte la formation, laissant sa place à Mike Anthony, qui a passé une audition. Le groupe se rend compte que Mammoth est déjà utilisé par un autre groupe, tout comme Genesis. Après avoir pensé à Rat Salad, David Lee Roth leur propose un nom qui dégage de la puissance, tout simplement Van Halen, un peu comme Santana. Le début du groupe sur scène sont fracassants. On parle de guitaristes repartis en larmes, chercher une manière d'exceller et d'atteindre la virtuosité d'un jeune Eddie Van Halen en tête à grâce et qui va bientôt se révéler à la face du monde. Parce que mal à l'aise face au public, il joue de dos. Par timidité, mais aussi pour que personne ne copie sa technique. Habile, ça rappelle Jim Morrison au début des Doors, mais aussi Miles Davis qui le faisait pour d'autres raisons. Le nom est là, Van Halen commence à tourner en Californie, se construisant une réputation solide de groupe, prêt à chauffer les salles avant l'entrée de la tête d'affiche. L'occasion s'offre au groupe quand Gene Simmons, le facétieux bassiste à la langue bien pendue de Kiss, assiste à une de leurs représentations. Séduit, il va à la rencontre du groupe et leur propose de financer une démo. La Gene Simmons démo, comme on la surnomme. Ça ne fait pas bouger la direction de Kiss, mais un cadre de la Warner fait signer Eddie et sa bande, avec Ted Templeman qui les produira. Ted Templeman, producteur des Doobie Brothers, Mount Rose, Eric Clapton, Sammy Hagar ou encore Van Morrison à ses débuts. Premier album, tout simplement appelé Van Halen, sort après 18 jours d'enregistrement et fait un carton, se vendant à 15 millions d'exemplaires. Au départ, le groupe avait enregistré 25 chansons qui faisaient partie de leur répertoire. Outre Running with the Devil, And Don't Talk About Love, ou encore la reprise des Kings, You Really Got Me, l'album contient Eruption, un morceau instrumental enregistré d'une prise qui, de l'aveu d'Eddie, pouvait mieux faire que ça, car contenant des fausses notes. Pour la petite histoire, c'était Templeman qui voulait inclure ce morceau, qui en réalité n'était qu'un tour de chauffe du guitariste avant de commencer à enregistrer. Coup gagnant quand même, puisque ce solo de guitare se retrouve souvent dans les classements des meilleurs solos de guitare. Le deuxième album est dans la même veine. Plein de fougue et de puissance, un son qui dépote, qui sert tout le groupe, et qui est pas seulement le virtuose Edward, qui déroule à chaque morceau, sur cette même lancée, 180 Women and Children First, qui pour le coup sera encore plus heavy que les deux précédents, et ne comportant que des chansons originales écrites par le groupe. Un succès qui grise le groupe et l'emmène à travers les quatre coins de la planète, et avec la tournée mondiale qui s'ensuit, Van Halen chope syndrome du saccage de la chambre d'hôtel, ou simplement syndrome Led Zeppelin, qui consiste à ruiner les chambres d'hôtel 5 étoiles où loge le groupe, ainsi que les exigences qui vont avec, comme la clause numéro 126 de leur contrat pour les concerts, et concrètement, les membres du groupe demandaient expressément une grosse coupelle de M&M's, mais sans les bonbons de couleur marron. Si cette exigence n'était pas respectée, ça voulait dire que le promoteur ne lisait pas le contrat, et dans le cas contraire, les dégâts seraient à prévoir. Mais de premières tensions entre David Lee Roth et Edward Van Halen vont pointer le bout de leur nez pendant l'écriture de Fair Warning. Les deux ne sont pas du tout d'accord sur la direction artistique à donner. Là où Eddie veut du sérieux et de la recherche musicale, David Lee ne veut que continuer sur le train de l'excentricité. C'est aussi ça qui fait le groupe à gagner de la notoriété. Mais ces tensions sont telles qu'Eddie songe même à quitter le groupe pour rejoindre Kiss. Leur guitariste Ace Frehley était aussi en conflit avec Gene Simmons et Paul Stanley. Mais finalement, ce ne sera pas pour cette fois. Et il ne rejoint pas Kiss, qui ne voit pas en lui un guitariste qui collerait à leur style. Ouais, j'ai bien envie de croire à cette histoire, mais qu'est-ce que ça aurait donné au moins pour le maquillage. Enfin bref, après Fair Warning, Van Halen veut prendre des vacances, mais sort quand même un single, A Pretty Woman, qui est un succès, qui oblige le groupe à enregistrer un album dans l'urgence. Pressé par le temps, Diver Down n'est pas le résultat attendu par le groupe. Encore moins avec les tensions naissantes avec David Lee Roth. Malgré tout, Eddie défendra ce disque, mais prendra ses précautions pour que cela ne se reproduise plus, en construisant son propre studio. Et en 83, naît le 51-50, le studio qui enregistrera tous les futurs albums du groupe. À la même période, Eddie Van Halen enregistrera un solo pour Michael Jackson sur le mythique Billet, et sur une rythmique signée Steve Lukather de Toto. Il offrira un solo rentré dans l'histoire. Oui, vous l'avez bien entendu, offrir, puisque Eddie Van Halen a gratuitement enregistré pour Michael Jackson. Mais Eddie Van Halen va rentrer en conflit, et non pas qu'avec David Lee Roth, mais avec tout le groupe, lors des sessions d'enregistrement du futur album, puisque le studio, c'est le sien, et que c'est chez lui. Eddie veut enfin avoir le contrôle créatif, introduisant les synthétiseurs, dont les autres membres ne sont pas fans. Mais ça passe et c'est le succès. Jump ou encore I'll Wait sont des succès. Mais cela n'empêchera pas les tensions de revenir et Eddie Van Halen d'en avoir marre du cartoonesque David Lee Roth, qui quittera le groupe un 1er avril. Beaucoup à l'époque devaient penser à un poisson. Mais c'est la réalité. Diamond Dave quitte le navire et laisse le groupe et les fans dans la confusion. Comment le groupe va parer à tout ça? Je vous dis tout ça la semaine prochaine pour conclure notre histoire.
Eh ouais, quelle belle histoire en tout cas de Van Halen. Il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, il nous faudrait peut-être beaucoup de temps effectivement quoi. Juste une petite notation. Déjà dans le premier album à l'époque, Sammy Hagar avait été déjà approché quoi. ça.
Oui, ça date de 73-74 déjà.
C'est ça, déjà.
Quand Sammy Hagar avait quitté Monroe.
Exactement, déjà ça commençait là, quoi. Ted Templeman, il l'avait dans le viseur jusqu'au moment où il
d'ailleurs, regardera. Ouais. D'ailleurs, parmi les noms, il y avait aussi le nom Van Hagar qui était envisagé.
Ah, possible. Je l'ai vu ça, je l'ai vu plusieurs fois, je pensais que c'était une blague, tu vois. Donc tu me confirmes que c'était bien envisagé alors. Ok.
Ouais.
Et cette histoire avec Michael Jackson, elle est incroyable, quoi. Elle est vraiment incroyable, quoi. En fait, un jour, Van Halen reçoit un coup de téléphone de Quincy Jones. C'est ça, hein, l'histoire. Il reçoit un coup de téléphone de Quincy Jones. Van Halen l'envoie péter directement et lui dit, écoute, si toi t'es Quincy Jones, moi je suis je sais plus qui, alors arrête de m'appeler s'il te plaît, oublie mon téléphone parce que ça va mal se passer. Parce que Van Halen, c'est quand même un dur à cuire, hein. Attention, hein, faut connaître le bonhomme, quoi. Et notamment, je me souviens de l'anecdote de Madame Rock avec l'autre groupe américain, là, je sais plus quoi, Limp Bizkit, elle est quand même extraordinaire, cette, bon. Et donc, Quincy Jones rappelle une deuxième fois, Van Halen s'énerve. Donc Quincy Jones n'arrive pas à avoir Van Halen. Que fait Quincy Jones? Il appelle Ted Templeman. Ted Templeman appelle Van Halen. Van Halen lui dit, écoute, il y a Quincy Jones qui va t'appeler. L'autre, il croit. Il dit, attends, il y a un mec qui m'a appelé deux fois, je l'ai envoyé balader. Non, c'est bien Quincy Jones. Quincy Jones l'appelle, il répond, ok. Il lui dit, voilà, Michael Jackson va faire ça. Il dit, ok, je vais venir, tel studio, tel truc, telle adresse, telle heure, tel jour, ok. Il pointe, je te promets, hein, il a pointé ses côtes, il est arrivé. Michael Jackson n'était pas dans la salle où il y a la console, il était dans une autre pièce avec une caméra qui les reliait parce que Michael Jackson avait toujours une phobie des gens. Van Halen est arrivé, il lui a fait écouter le titre. Il l'a fait en quatre prises en fait. Pourquoi? Parce que l'album 1984 était terminé, et il avait un solo en tête qui ne figurait pas sur l'album. C'était ce solo là dans Beat It, voilà, c'est ça. Et en fait, ce solo là, il va le proposer et il va coller au bout de la quatrième prise, net, clair et précise. Hein. Quatrième prise, il colle donc sur la rythmique effectivement de Steve Lukather, il colle le titre de le solo Beat It qui sera mondialement connu et puis il part. Salut, c'est bon, ça marche, ok, salut. Il a rien demandé, il s'est barré quoi. C'est ça le rock.
Je pense qu'il doit un peu se mordre les doigts.
Non, pas du tout, parce que ça a fait sa renommée mondiale. Il a gagné plus sans demander quelque chose que s'il avait demandé quelque chose.
C'est vrai.
Ah non, attends, là, ça a été incroyable, quoi. Puisque d'ailleurs, les frères Jackson, sur leur tournée Victory, en 84, donc ils vont inviter à Los Angeles, notamment, il y a toutes les télévisions du monde, il y a toutes les caméras, même Manœuvre est parti je me souviens très bien dans l'émission Sex Machine, il est parti à Los Angeles filmer, donc, les frères Jackson, et puis on voit Van Halen sur Beat It, tu vois, et c'était incroyable, quoi, c'était la montée de l'album Thriller et tout, et puis en même temps, il y avait l'album des frères Jackson qui sortait Victory, avec deux titres notamment chantés par Michael, et puis c'était la grosse tournée américaine, les radios, elles étaient à fond sur Beat It, et t'avais le solo de Van Halen dans toutes les radios, comme ça, là, c'était incroyable, quoi, c'était un coup de pub incroyable. Alors imagine le conflit avec David Lee Roth derrière et les autres, quoi. Tu vois à l'époque.
Ouais.
Donc qui avait raison? Il est très fort, ouais. Ce gars. Il était très fort, très très fort, quoi. Tu vois, voilà quoi. Et puis en même temps va se passer quelque chose et que tu raconteras la semaine prochaine. C'est l'album 5150. Tu peux te dire celui-là, je l'adore vraiment, quoi. Et puis Sammy Hagar, pour moi, il est fabuleux, quoi. Voilà. Quoi. Ben merci Butch. Et ce soir, donc, le titre que tu as choisi pour sortir, c'est le Running with the Devil. C'est là-dessus qu'on terminera la soirée. Yeah.
C'est le titre d'ouverture du premier album, avec des klaxons de voiture, puis cette basse, et puis ce riff. Et d'ailleurs, c'est un des seuls enregistrements où Van Halen utilise des réenregistrements de guitare, ce qui est fait très très rare. Il ne fait pas d'overdub.
Ouais. Tu vois, par exemple, tu m'as appris un truc. Je savais pas qu'Eruption, il l'a fait du premier coup, quoi. Il l'a fait en une seule prise.
C'est une seule prise.
Oh, ouais. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable la dynamique qu'a ce solo, quoi. Ça crache les Marshall, quoi. Je te jure, quand tu écoutes ça, tu vois les Marshall. T'as les quatre voix en face de toi, là. T'as les cabinets, tu les as. C'est ça, ça pulse, quoi. Voilà, quoi. Il a réussi à faire ça, quoi. C'est lui. C'est Van Halen. C'est le seul. C'est le seul à avoir fait ça, quoi. Ça tue, quoi. Ce mec est génial, quoi. Oh, j'espère qu'on verra encore quelque chose en concert avec lui, quoi. J'espère vraiment, quoi. Voilà.
Ouais.
Bah, merci, Butch. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. OK?
Yes.
Allez, c'était donc le Butch Rock ce soir sur Van Halen, notamment la partie 1, la partie 2 pour la semaine prochaine. Tout de suite, le titre choisi, donc extrait donc du premier album par Butch himself, notamment le Running with the Devil sur le 113 Rock. Hell yeah, sur la Web Rock Station, Vinnie Times, le Classic Rock Radio.